Conférence privée du noviciat par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 15 octobre 1992.
Milan, c'est un jour. chrétien très rassis et très enraciné dans la tradition. Et on a l'impression qu'on ne peut plus les déloger. De sorte que les vœux sont pour lutter contre les trois concupiscences. Et c'est vrai, les trois vœux luttent contre les trois concupiscences. Le vœu, l'esprit de virginité, le vœu de chasteté, la concupiscence de la chair, le vœu de pauvreté, lutte contre la concupiscence des yeux, la vanité, la grosse vanité. On fait attention à ce que les autres pensent de nous. Et puis, le vœu d'obéissance, l'orgueil. Rien qui lutte plus contre l'orgueil que l'obéissance. Parce que l'orgueil nous met dans une indépendance d'esprit, une autonomie parfaite. Donc vous voyez, on peut dire que les vœux, à ce point de vue-là, sont ajustés divinement à la situation propre du converti. Puisqu'on est nés tous dans le péché. Et dans le péché, conséquence du péché originel. Puisqu'on est tous nés dans le péché, nous sommes tous des convertis. Et on est fragile comme des convertis. On est fragile. Les trois grandes lignes de fragilité, c'est les trois concupiscences. Et il y a un ordre dans ces trois fragilités. La fragilité la plus terrible, c'est la vulnérabilité à l'égard de l'orgueil. Notre péché dominant pour chacun d'entre nous, c'est l'orgueil. Ne faites pas une retraite spéciale pour savoir quel est votre péché dominant. C'est pas la peine. Vous savez tout de suite. Mais c'est plus ou moins bien caché. Alors là, oui, ça c'est... On cache assez bien les concupiscences. À nos propres yeux, pas aux yeux des autres. Aux yeux des autres, l'orgueil, ça se voit. Et la vanité, c'est encore plus criant. Et la concupiscence, également. Mais à nos propres yeux, on arrive à voiler assez bien. On arrive à s'accommoder assez bien de l'orgueil. Après tout, c'est pas si mal. Les vœux sont aussi pour nous maintenir dans une certaine perfection, si vous voulez, ou plus exactement, je dirais que les vœux vont permettre qui risquerait de vouloir puissance nous empêche de dominer. Donc, les vœux doivent nous permettre d'acquérir une certaine tenue morale. Ça, c'est sûr. J'allais presque dire, il y aurait quelque chose de très intéressant à bien comprendre. Le lien avec les vœux et le lien avec la perfection morale. Perfection morale religieuse, vous voyez. L'aspect de l'homme religieux, la personnalité de l'homme religieux. Et puis enfin, les vœux, avant tout et plus que tout, nous permettent de vivre une petitesse évangélique. Au niveau des trois vertus théologales.
Une exigence.
profonde qui nous permet de vivre réellement en unissant avec Jésus, vivre en harmonie avec le cœur du Christ, avec le cœur de Marie. Et les trois vœux se tiennent. C'est l'esprit de virginité qui est le plus fondamental. Parce que si on fait des vœux, c'est pour que notre cœur aime plus Jésus. Et l'aime d'une manière unique. L'aime d'une manière qui soit parfaite. Alors, c'est dans cette lumière-là que je vais essayer de répondre aux questions posées. L'obéissance est-elle une coopération entre celui qui exerce l'autorité et celui qui obéit? Alors, nous nous plaçons du côté de l'obéissance religieuse. Parce que, selon l'Écriture, il y a beaucoup de modalités de l'obéissance. Première modalité, vous trouvez ça dans l'Écriture. Il faut relever dans l'Écriture ces diverses modalités. Première modalité, l'obéissance des citoyens. Cette chivalse des citoyens de Dieu, citoyens du royaume de Dieu. L'obéissance d'enfants. Il faut obéir comme des tout petits. L'obéissance du serviteur. L'obéissance filiale du Fils. Je crois que ce sont toutes les modalités que trouvées dans l'Écriture. C'est facile à trouver, du reste. Relevez ça et quand vous lisez l'Écriture, ayez une fiche obéissance. Et relevez chaque fois que vous trouvez une des modalités particulières de l'obéissance. Parce que l'obéissance religieuse va de fait impliquer toutes ces modalités. On est serviteur, on est enfant, on est ami, on est épouse, on est tout. Donc, il faut comprendre que cette diversité d'obéissance dépend des différentes circonstances dans lesquelles on se trouve et la manière dont l'Esprit Saint souffle et nous conduit. Toute obéissance implique une coopération. Toute. C'est le nœud de l'alliance de celui qui exerce l'autorité et de celui qui obéit. Toute obéissance implique une autorité et non pas un pouvoir. Le démon a un très grand pouvoir, il n'a aucune autorité. Et quand le démon vous dit « fais ceci » et qu'il vous tente et que vous écoutez, modalité. Au noviciat, c'est le propre du noviciat. On doit vivre beaucoup plus en petit, en tout petit, l'obéissance de l'enfant. Ça, c'est sûr. Et le Père Med exerce l'autorité pour tout reprendre. Tandis que le prieur, puisqu'on est passé au noviciat, l'autorité se fait autrement. L'autorité à vos parents, anciennement, dans la première alliance. Il y avait une autorité aux parents. Il y a une autorité, si on était au collège, en pension, bon, il y a une autorité de ceux qui exerçaient. Il y a une obéissance à l'égard de ceux qui exerçaient l'autorité, qui était encore différente. Un professeur a le droit à une certaine autorité. Je dis une certaine autorité. S'il dépasse l'exercice de son autorité, on le sent tout de suite. On dit, ah, c'est pas votre, ça vous regarde pas. C'est pas votre domaine. Ça, spontanément, c'est pas votre domaine. C'est-à-dire, votre autorité ne s'exerce plus là. Toute autorité, tout acte d'obéissance implique une autorité.
Progressivement, puisque un arbre bon part.
Qu'est-ce que c'est que la coopération ? C'est recevoir l'ordre du supérieur comme ce que nous aurions nous-mêmes élaboré si il n'y avait pas eu d'esclavage, s'il n'y avait pas eu l'intervention du supérieur. C'est là le télescopage du supérieur qui intervient. Qui vient mettre quelque chose de nouveau dans mon opération humaine. On verra en éthique où se situe exactement l'obéissance comme acte humain. C'est pour l'exécution. C'est pour réaliser ce qu'on appelle l'imperium. C'est juste avant l'imperium. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas intervenir sur les actes antérieurs. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, viens, tu vas choisir ça comme moi je l'aurais fait si j'étais à ta place. Donc là, ce serait une obéissance à l'égard d'un choix. On peut conseiller un choix, mais on ne commande pas un choix. C'est curieux. Parce que l'exécution se fait toujours par rapport à une réalité. Le choix porte sur une réalité intérieure et l'obéissance porte sur une réalité qu'on doit acquérir, donc extérieure. Alors la coopération, c'est tout simplement faire que dans tout acte humain, il y a un imperium et il y a l'exécution. L'imperium, c'est tu dois faire ça. Mais quand la cloche sonne, tu dois te lever et aller. Puis, quelquefois, le tu dois faire ça. Ah non, j'ai oublié, vite, vite, que je le fasse. Puis en faisant l'autre chose, vous oubliez complètement que la cloche a sonné et vous continuez. Et vous arrivez 10 minutes en retard. Et vous dites, mais je n'ai pas désobéi du tout. Hein. C'est pas. Comme c'est l'exécution, le temps joue. L'impérium demande de se réaliser rapidement. Et de se réaliser pour tel acte en particulier. Il est toujours concret. L'obéissance de fort externe est toujours concrète. L'obéissance de fort interne peut être plus vaste, plus ça peut porter sur les intentions de vie. Alors, la coopération, c'est parce que ce que je vais faire, ce n'est pas moi qui le détermine, c'est le supérieur qui m'a donné un ordre précis de le déterminer. Ça, c'est justement le propre de cette coopération. C'est que je fais quelque chose qui m'est commandé. Et je ne fais pas ce que moi-même j'aurais choisi. Mais je le fais comme si j'avais choisi. De sorte que lorsque vous dites à quelqu'un, je fais ça parce que tu me l'as commandé. Attention. Vous voulez. Je fais ça parce que tu me l'as dit, et puis ça rate. Et on ne dit plus loin, je l'ai fait parce qu'on me l'a commandé, autrement j'aurais pas fait. Est-ce que vous avez obéi ? Vous n'avez pas obéi du tout. Vous vous rattrapez, et vous n'obéissez pas du tout. Quand on obéit vraiment, on reçoit et on le fait sien. C'est comme ça qu'on coopère. Autrement qu'on ne coopère pas du tout. esclave. La naissance du service militaire, vous savez, c'est souvent comme ça. C'est une naissance matérielle. C'est la naissance qu'on fait en grinçant des dents. Et on est obligé de la faire parce qu'autrement on aurait une punition. Alors on n'obéit pas. On obéit matériellement. Il n'y a pas de coopération. Puisque si ça rate, on dit j'ai fait ça parce que tu me l'as dit. Autrement j'aurais pas fait. Mais est-ce que vous avez coopéré ou pas? Est-ce que vous avez obéi ou pas? Si vous obéissez, vous considérez que l'ordre du supérieur devient ce qui va déterminer votre activité. Ce n'est plus l'activité de celui qui commande, c'est votre activité. Et comme c'est difficile, hein, c'est pas si commode que ça d'obéir. Considérez l'ordre du supérieur comme ce qui détermine ma vie. Ce qui détermine telle ou telle opération. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Si vous êtes loyal, je le fais parce que tu l'as dit, et on le dit ça couramment. Surtout quand ça a raté. Si ça réussit, ah, c'est merveilleux, c'est moi qui l'ai fait. Mais on est ainsi fait, mais c'est très curieux. Vous allez voir la propre prochaine, quand vous serez devant quelqu'un qui vous dira ça, vous éclaterez de rire. Ah, j'ai compris la coopération. C'est-à-dire, je comprends lorsqu'il n'y en a pas. Et lorsqu'il y a une vraie coopération, alors, c'est mon activité. Aussi bien que celle de celui qui commande. Alors ça, c'est mon activité. On fait une œuvre à deux quand on commande. On fait une œuvre à deux. C'est la tête qui commande et c'est les pieds qui exécutent. Et c'est mon œuvre. C'est la tête qui commande et c'est les mains qui agissent. Et c'est mon œuvre. Alors quelquefois, on a besoin de mains un peu plus étendues, d'une main plus forte qui est extérieure à moi. Mais puisqu'il obéit, il est conjoint. la bénédiction. C'est très curieux, ça. Parce que nous le dirions, parce que nous sommes affinés au point de vue juridique. Mais il y a erreur sur la personne, donc il n'a pas béni. Donc il peut recommencer sur la véritable personne. Et la Bible a l'air de dire que c'est une véritable bénédiction. Alors comment vous expliquez ça? C'est qu'on est là en présence d'une bénédiction et c'est Dieu qui bénit. C'est pas l'homme. Et donc l'instrument peut se tromper. Ou être trompé. Il n'est qu'un instrument de Dieu. C'est ce que dit, c'est ce qu'on dit couramment quand vous vous confessez à un prêtre qui n'a pas les pouvoirs. Vous confessez à un prêtre qui est suspend, vous ne le savez pas. Et il donne toutes les apparences d'un prêtre véritable que les pouvoirs, puisqu'il se tient là pendant une heure, deux heures au confessionnal et fait tout ce qu'on lui a dit. Alors on peut se dire à ce moment-là qu'il y a erreur sur la personne, c'est très vrai. L'Église supplée, c'est ce qu'on dit. L'Église supplée. Vous assistez à la messe de quelqu'un qui ne croit pas et qui dit une fausse consécration. L'Église supplée, vous voyez. La cause principale supplée. Je crois que c'est la seule réponse qu'on peut donner. C'est que Isaac sait très bien qu'il bénit ses enfants de la part de Dieu. Donc comme un pur instrument. Et que ce pur instrument peut très bien, parce qu'il est dirigé par l'Esprit Saint, accomplir quelque chose qui lui échappe complètement. Alors vous voyez, ça s'accomplit l'histoire. La coopération. Et non, ça ne la complique pas du tout. Le supérieur peut se tromper. Il vous demande de partir à Taïwan. Et puis, votre santé là-bas se détériore très vite. On vous dira, oh, ce que vous avez manqué de prudence. J'avais une santé pas très forte de l'envoyer dans un lieu comme là. Donc il n'aurait pas dû obéir. C'est ce qu'on dira couramment. C'était une imprudence folle. Il n'aurait pas dû obéir. Pas du tout. L'Église y supplée. L'erreur, c'est du côté du supérieur qui a peut-être manqué de prudence. Mais du côté de celui qui obéit, il a parfaitement saisi l'occasion d'obéir. Et coopération dans l'ordre de la vie religieuse, coopération avec Dieu, puisque c'est pas une autorité humaine, c'est une autorité divine, c'est une autorité qui vient de l'Église. Ce qui est important, c'est de savoir que celui qui nous bénit, celui qui nous embrasse, parce que ça c'est très important, parce que ça donne à l'obéissance toute sa valeur. On obéit à quelqu'un qui a autorité. Il peut se tromper. Parce que Dieu ne vient pas éclairer nécessairement la nuit celui qui doit donner des décisions. Il prie, il demande à Dieu de ne pas se tromper. Il demande à Dieu que ce soit bien, mais il peut se tromper. L'erreur est possible. Et pour celui qui obéit, il ne se trompe jamais. Dans l'obéissance. Mais c'est bien la coopération avec Dieu, ça. Parce que si c'était la coopération simplement avec un grand chef, si le grand chef se trompe, vous êtes dans une situation impossible. Vous avez coopéré avec lui, vous avez fait venir d'autres pour coopérer avec lui. Tandis que dans la vie religieuse, dans l'Église, obéir à un grand chef, on ne se trompe jamais. Parce que c'est Dieu qui parle à travers lui. Ça donne à la coopération de la puissance religieuse une force étonnante, une efficacité prodigieuse qui vient de Dieu, qui dépasse le point de vue de la prudence humaine et qui vient de Dieu. Et qui est quelque chose qui a une grandeur énorme. Donc vous voyez, c'est une coopération morale, une coopération surnaturelle, une coopération prudentielle qui me conduit au salut. Je coopère au salut quand il s'agit d'une obéissance religieuse, d'une obéissance en terre chrétienne. L'obéissance peut-elle vraiment s'exercer en dehors d'un lien de charité fraternelle? Vraiment, alors, je dirais pleinement. Vraiment, il suffit que l'autorité soit légitime. Mais celui qui a l'autorité peut être empêché, en état de péché. Donc il n'y a pas de charité fraternelle. N'allez pas demander avant d'obéir à vos supérieurs, est-ce que vous êtes bien d'état de grâce? Je vous ai vu hier soir dans une colère violente. Oh là, n'ayez pas peur que... Est-ce que vous êtes bien confusé depuis? Cependant, l'autorité existe. C'est celui qui exerce l'autorité qui fait mal de l'exercer sans la charité. Mais celui qui reçoit l'autorité et qui, lui, est en état... Vraiment, il fait ça par amour pour le Christ. Il fait ça dans l'état de grâce. Il méritera comme si l'autre était en état de charité. Mais la faute est toujours du côté de celui qui exerce l'autorité, et non pas de celui qui la reçoit, ce qui est normal, hein, ce que ce qu'il y a en soi comme inférieur, il ne peut pas vérifier. Mais celui qui exerce l'autorité comme supérieur, il peut vérifier. Et ça, c'est, je crois que c'est très important, parce que ça donne à l'autorité toute sa force. Elle est au-delà des circonstances spéciales de celui qui l'exerce. Il la reçoit comme une autorité qui vraiment vient de Dieu et qui conduit vers Dieu. Pouvez-vous préciser la distinction que vous avez faite entre le vœu d'obéissance et l'esprit de pauvreté et l'esprit d'obéissance? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'esprit d'obéissance est rattaché directement à l'amour. Se rattacher directement à l'effet du loup. On ne parle que de l'esprit d'obéissance. Tandis qu'au contraire, si vous regardez le point de vue du conditionnement, alors c'est tout à fait différent. L'esprit donc regarde l'amour et la finalité. Tandis que le vœu regarde une matière sur laquelle s'exerce l'obéissance.